Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Djoliba TV News. Bienvenue dans votre émission, le rendez-vous des idées, le RDI. Le rendez-vous des idées, c'est votre émission du dimanche sur Djoliba TV News, votre émission de décryptage de l'actualité nationale, régionale, souvent internationale, sur des thématiques majeures et sur Djoliba TV News, avec des invités de talent qui vous donnent des clés pour mieux comprendre l'actualité, les non-dits, les dessous des cartes. Le RDI, on le rappelle très souvent ici, c'est le choc des idées, la force des arguments et non les arguments de la force. Ce soir, nous allons parler de trois thèmes. Le premier thème, de colonel à généraux, le sujet divise l'opinion publique malienne, promotion pour, si la réalisation le permet, les visages de ceux qui ont été promis au grade à titre exceptionnel de général. Donc, des colonels à généraux, est-ce que les étapes ont été sautés et certains Maliens parlent de promotion méritée, mais pour d'autres, et c'est une promotion au coup d'État et c'est une auto-promotion. Le sujet, tout ce qu'on peut dire, c'est que le sujet passionne et divise l'opinion publique. Donc, on va faire un retour sur les contours de cette question et puis avec nos invités. Et deuxième thème de l'émission, le gouvernement du Mali qui s'engage à payer 200 milliards de France CFA et pour les créanciers et les fournisseurs au titre de la dette intérieure sur un total de plus de 3 milliards de francs CFA. Et déjà, un ouf de soulagement pour certaines petites entreprises qui ont du mal à fonctionner. Et donc, est-ce que c'est un souffle pour l'ensemble de la machine économique? On va en parler avec nos invités qui, pour certains, connaissent bien le secteur et ce secteur de la dette intérieure. Je pense à un des autres invités, on lui donnera la parole après. Et puis, troisième et dernier thème de l'émission, l'activiste influenceur Kemi Seba, qui a été, après une garde à vue en France, a été libéré sans poursuite. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette affaire? Est-ce à dire qu'en France, l'état de droit existe et que Kemi Seba, sur d'autres sujets, aurait pu écoper d'une peine d'emprisonnement pour peut-être son soutien affiché pour la Russie. Voilà, on lui reprochait justement dans ce cas précis de connivence avec le groupe paramilitaire Wagner. On va en parler dans cette émission et certains avec ironie qui disent que Kemi Seba continue, il aime la gastronomie française. Je ne vais pas parler de parfum ici sinon vous allez penser à quelqu'un. Donc voici pour les thèmes de cette émission avec nos invités. Oui, un grand retour ici. Soumaïla, bonsoir.
Soumaïla,
heureux de vous retrouver.
Heureux de retrouver le plateau également.
Le plateau vous a manqué, vous nous avez manqué.
Absolument.
Okay,
j'ai été éloigné du plateau pour des considérations professionnelles.
Oui.
Et fort heureusement, je suis bel et bien de retour.
D'accord, on peut dire que c'est le grand retour de l'homme.
Absolument.
Ok. Issaka Ogim, bonsoir.
Bonsoir.
Issaka Ogim, merci d'être là.
Le futé que vous êtes, parce qu'aujourd'hui vous êtes vraiment sans exagération, vraiment vous marquez votre espace étant éditorialiste vraiment qui prend la parole pour dire avec un style mais avec professionnalisme et éclairer les opinions mais tout en assumant vraiment votre conviction, et ça, c'est à votre mérite.
Merci, Issaka Ogim, mais il faudrait aussi que vous me passiez de temps en temps le lait, votre lait qui est si rare sur le marché.
Il faut l'adjoindre avec l'esprit juif.
Merci, Issaka Ogim, notre troisième invité, une dame sur ce plateau, ça, c'est... Les téléspectateurs le demandent souvent, ils nous demandent de penser aux dames sur ce plateau. Docteur Aminatou Traoré, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être sur ce plateau.
Merci.
Vous êtes à l'aise avec les autres invités. D'accord, merci. On compte vous retrouver très souvent sur ce plateau pour décrypter. Docteur Amadou Touré, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir aux co-débatteurs. Souhaitons la bienvenue à Docteur Traoré.
Merci. Ok, donc on va commencer avec le premier thème rapidement. On montre les images des promis, colonel désormais généraux, hein, et puis le président de la transition, lui, hein, il est général de corps d'armée, 5 étoiles aujourd'hui, c'est l'homme le plus gradé de l'armée malienne. Les cinq généraux, hein, voilà, hier ils étaient colonels, hein, qui étaient colonel-major, le colonel Ismaël Wagué. Donc le sujet aujourd'hui divise, hein, pour certains c'est une promotion bien méritée, mais pour d'autres, hein, c'est la promotion au coup d'état. Issa Koudjima, quel est votre regard sur cette actualité?
D'abord, avant de parler de l'actualité sur la question, il faut faire un rappel historique pour permettre à l'opinion de mieux cerner les contours. En fait, quand vous regardez l'histoire du Mali indépendant, quand la fédération du Sénégal, enfin, fédération du Mali a échoué, qui devrait lier le Sénégal et le Mali, même si le Mali a gardé le nom initial. Souvenez-vous qu'à la rupture de cette union, il y a eu le Mali qui a voulu mettre sur place des institutions avec ce qui va avec. Et la première des institutions, si on peut même qualifier colonne vertébrale, c'est l'armée. Okay. Et à son temps, Moribo Keïta a choisi Abdoulaye Soumaré, comme
le général Soumaré,
général Soumaré, ouais, qui a été le premier général d'ailleurs, ouais, et le seul de 1960-68. Alors, qui lui a été nommé par Modibo pour s'occuper de la structuration de l'armée malienne, parce que Modibo avait décidé un certain 20 janvier de demander à l'armée française de plier bagage. Donc voilà le départ de l'armée malienne. 8 ans après, il y a eu des officiers subalternes, parce que quand on parle de l'armée, il y a 3 types d'officiers. Quand on est lieutenant et capitaine, on appelle ça des officiers subalternes. On devient des officiers supérieurs à partir du commandant, lieutenant-colonel, colonel. Maintenant, les officiers généraux, ça c'est, comme on le dit, les généraux avec brigade, etc., etc., jusqu'au corps d'armée. Alors là, il y a eu Moussa Traoré qui est venu, il était lieutenant. Et Moussa Traoré aussi, après 1974, alors quand il y a eu à se séparer en 1978 entre guillemets les Tchekoro et les Karimouhout, mais avant ça, il y avait d'abord 2 capitaines qui étaient à leur sein. Il y avait Yoro Diakité, Malik Diallo et même certains Palais Dibisila. Donc après, Moussa Traoré n'est pas allé directement général, contrairement à ce que les gens pensent. Il a été d'abord colonel, les autres étaient un peu en bas de l'échelle. D'accord. Mais après 1974, permettez-moi, on a un âge tout.
Okay.
Donc Moussa Traoré, après les événements de 1978 de Tchokoro et la guerre avec la Haute Volta.
Tchokoro Bagayogo, hein, pour
Tchokoro
les gens
Bagayogo qui était le patron de la sécurité d'État. Il y avait Kissiman qui était le ministre de la Défense, de la Sécurité intérieure. Il y avait Karim. Et puis il y avait aussi les Charles et autres.
Okay.
Donc ce qu'on appelait, mais les ténors, c'était Tchokoro, Karim.
La bande de trois.
Voilà, la bande de trois. Ouais. Donc en 1978.
Okay.
Et Moussa Traoré est devenu général. Et Moussa a nommé d'autres généraux, tels que Philippin Sissoko, mm-hmm, et puis Sekouli,
okay,
et Baba Diarra.
D'accord.
Bon, donc ça c'était Moussa Traoré. Okay. Mais en tout, Moussa a eu 9 généraux.
D'accord, en tout.
En tout,
en 23 ans,
pas plus.
En 23 ans.
En 23 ans. De 8 à 9, il n'a pas dépassé.
D'accord.
Et quand il s'agissait maintenant, les autres, on vient à Alpha Omar Konaré, mais avant Alpha Omar Konaré, il y a eu une petite période de transition, qui était ATT, il n'y a pas eu de nomination, en tout cas à ma connaissance, parce qu'ATT mettait lieutenant-colonel.
Okay. Pendant toute la transition. Ouais,
voilà, voilà. Mais quand ATT a remis le pouvoir, Alpha a fait de lui général d'armée.
Okay.
N'est-ce pas? Mais il y a eu d'autres nominations, à peu près 8.
Okay.
8 ou 9, si ma mémoire est bonne, entre les deux. Donc, du coup, les nominations existaient. Hein. Maintenant, on va amener le pourquoi.
Okay.
Et maintenant, la différence, c'est que Alpha a nommé ATT parce qu'il a géré la transition. Mais parce que, sauf que Alpha a pris le pouvoir démocratiquement. Donc il a rendu vraiment les honneurs à ATT comme service rendu, le fait de lui, général, parce qu'il a commandé. Okay. Parce que dans l'armée, parce que vous dites qu'on a le temps.
Oui, allez, okay, on a le temps, oui.
Vous avez dit que, voilà, donc parce que tout le monde...
Ok, mais vous pouvez aller accélérer la cadence. D'habitude, vous pouvez accélérer.
Oui, c'est
voilà, voilà, allez-y.
Ouais. Maintenant, après ATT, et nous avons eu Ibeka.
Ok.
Mais avant qu'Ibeka arrive, il y a la seule fois une transition où on a vu un capitaine qui devient directement général. C'est quand il y a eu le coup d'état de Sanogo.
Okay. En 2012,
a nommé
un capitaine
général d'armée, mais sauf que lui aussi, il a fait d'autres nominations.
Okay.
À peu près 5 ou 6 comme
d'accord,
ça. Voilà, 5. Donc, merci, docteur. Et suite, quand il est parti, il y a Ibeka qui est venu, qui a fait à peu près 26 ou 27 généraux. 29.
Okay,
voilà.
Ça va.
Donc, après une trentaine. Maintenant, celui qui a fait plus de nominations, c'est ATT lui-même.
Okay.
à peu plus de quarantaine de généraux.
Okay.
Plus à peu près 15 policiers, même si à l'époque la police était démilitarisée.
D'accord.
Ibeka en a fait 29 après au 27. Mm-hmm. Voilà. Maintenant, le cas d'Assimi aujourd'hui qu'on en parle. Vous savez qu'il y a deux problèmes dans la nomination des généraux. L'aspect militaire pur existe, mais il y a l'aspect politique. Dans un système normal, on dit que l'armée est soumise à l'autorité politique.
Okay.
Donc c'est l'autorité politique qui prend des décisions sur des critères qu'il apprécie lui-même en tant que politique. Par exemple, le président de la République peut estimer qu'il veut faire un colonel, un général, c'est selon son pouvoir discrétionnel, comme aussi le mérite militaire aussi peut être prévalu. Mais dans le cas d'Assimi aujourd'hui, que vous dites que ça fait polémique, c'est là la question. Et vous savez, moi j'ai une lecture très très nuancée. Assimi se trouve dans un contexte, qu'on soit d'accord ou pas, ça c'est notre débat. Mais Assimi est le chef militaire, mais il est chef politique. Il est le chef suprême des armées, vu sa position de président de transition. Mais il a le pouvoir politique parce qu'il est le président aussi de transition. Mais ça c'est ce que j'ai comme information.
Okay.
C'est que moi j'ai comme information. Nous allons aux élections et je sais qu'Assimi est candidat.
Ok, donc ça, ce soir vous le dites.
Je le dis clairement.
Ce soir vous dites clairement
qu'il est candidat.
On part aux élections.
Non,
Assimi est candidat.
Maintenant,
Issa Kogim peut dedans et peut avoir un rôle à jouer.
Non, là c'est autre chose.
Ok, allez-y.
Maintenant, je sais qu'Assimi est candidat.
Oui. Issa Kogim, on va donner. Oui.
J'ai fini.
Non, rapidement. Oui,
parce voilà, que je sais qu'il est candidat.
Oui.
Alors la question qu'elle est, pourquoi ça fait tant de polémique, si Assimi devrait finir la transition, ça n'a choqué personne cette nomination.
Ok.
Maintenant, on parle de ça parce que les gens disent que, bon, s'il fait son nomination, les politiques ont compris. Hein.
Mm-hmm.
Ça veut dire que je suis, mais je reste.
Okay. D'accord.
Je suis, je reste. Maintenant, je change de boubou.
D'accord.
J'ai les galons maintenant, je suis le chef des armées.
Mm-hmm.
Maintenant, je vais aller sur le plan politique pour être président de la République. En ce moment, si lui doit être président de la République, qui va le nommer?
Ok. Oui, docteur Aminatou Traoré, sur cette question, Issa Kogim, visiblement, vous l'y peut-être occupé. Voilà, bon. Voilà, d'habitude, il accélère la cadence, mais je ne sais pas, aujourd'hui, il prenait. Voilà, je ne sais pas pourquoi, parce qu'un bon buveur de lait, c'est sûr que. Voilà, bon. On va essayer de comprendre. Oui, docteur Aminatou Traoré, votre lecture sur cette question.
Le grand frère Kaoudim à Bruxelles et comment l'historique des nominations en général. Et par rapport à cette nomination, j'aimerais m'axer sur les grades, c'est-à-dire les deux derniers grades, qui sont le général de corps d'armée et le général d'armée. Dans l'histoire du Mali, toutes les personnes qui ont été nommées à ces différents grades, leur carrière militaire est associée à ce qu'on appelle un coup d'État, et qui est d'ailleurs un crime imprescriptible. Donc c'est difficile de comprendre, parce que dans l'histoire, on n'a jamais vu qu'on a nommé un général à ce niveau par mérite simple. Tous les généraux de corps d'armes et les généraux d'armée sont au Mali, leurs carrières sont liées à un coup d'État. Et qui reste vraiment un crime
imprescriptible
depuis la naissance de notre pays. Ça, c'est un premier aspect. Pour encore montrer que cette nomination, ce style de gradation est lié au coup d'État encore, on peut regarder les militaires qui sont nommés. Nous voyons qu'on a nommé déjà le général Maïga, qui a vraiment... Abdoulaye Maïga. On l'a mis au niveau de général de division. Parce qu'il n'a pas participé au coup d'État. Donc ça montre clairement que il y a une récompense pour vraiment cet acte qui est vraiment considéré comme un crime, entre guillemets.
Okay.
Et cela est assez difficile parce que non, l'armée, c'est une institution. Le corps, Kaoudim a dit, c'est la colonne vertébrale, je peux dire, d'un pays. Et c'est important d'avoir une armée stable et une armée juste, vraiment avec des processus de promotion qui répond non seulement aux qualités militaires, mais aux qualités intellectuelles. Parce que quand on regarde le statut général des militaires, on peut voir que la nomination est demandé, c'est-à-dire même à titre exceptionnel, on ne doit pas dépasser le grade qui suit.
Mm-hmm.
Et que c'est clair et net. On ne peut pas être général sans pour autant avoir des formations supérieures de sécurité et de défense ou bien des formations universitaires. C'est clair dans les statuts. Donc, si on essaye de faire la promotion... En fait, ces nominations essayent de promouvoir, essayent de dire que pour atteindre le niveau le plus grand, il faut faire un coup d'état.
Donc, ok, donc pour
et
vous.
Ça entraîne vraiment le développement d'une mentalité qui n'est pas contre notre armée et qui est contre le statut républicain.
Ok. Vous êtes en train de dire que si on ne fait pas attention dans les écoles déjà où on forme les futurs officiers, il peut y avoir déjà des vocations, des gens qui se lèvent pour dire, bon, un petit groupe qui va dire déjà à l'école, on va dans quelques années préparer notre coup d'État, n'est-ce pas?
C'est sûr. Et puis, on peut voir l'exemple même, parce que à chaque fois, ce n'est pas les promotionnels. Et on va voir que ce sont les subalternes qui sont attraits à faire ce coup d'État. L'exemple s'est fait récemment au Burkina. Après le coup d'état de Damiba, on a eu un capitaine qui l'a fait. Et ça va être de fil en aiguille comme ça.
D'accord.
Et jusqu'à ce que, peut-être que les hommes de rang vont s'y mettre. Et le plus dangereux, c'est comme si c'est une force de frappe qu'on y arrive.
Okay.
Qui sait?
D'accord.
Donc c'est important d'être vraiment prudent à ces différents niveaux. Et je sais qu'on n'a pas fini ces débats, on a beaucoup de choses à dire
sur le même sujet. Oui, on va débattre, on va faire le contexte. Soumets-la sur la question. Est-ce que pour vous, ce sont des promotions bien méritées? Ou des promotions bien méritées?
Méritées, je ne saurais les dire, mais si vous le permettez, je serai peut-être un peu plus long que Kaoudim.
Plus long. Plus long même.
Peut-être, ça dépend.
Allez-y rapidement, parce que le docteur n'a pas parlé. Et puis, non, on pourra toujours faire un autre tour. Hein. Ce n'est pas que c'est. Le sujet va nous prendre au moins l'essentiel de l'émission.
Le sujet est passionnant. Voilà, mais vous pouvez, le sujet est passionnant, ça a défrayé la chronique. Je pense que toute cette semaine, c'est le sujet qui a le plus été discuté dans ce pays. Et au-delà de travailler sur les enjeux de développement, les questions en lien avec les industries extractives, mines solides, énergie, mines liquides, je travaille depuis plusieurs années sur les questions en lien avec la sécurité. Et je coordonne les activités, on va dire, d'une organisation qui vient en appui à la défense du secteur de la sécurité. Et je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau, dans ce pays, c'est tellement malheureux, on a l'habitude de créer des précédents fâcheux, on n'apprend pas de nos erreurs. Et au lieu d'être dans les logiques des républiques, nous avons toujours été dans les logiques des personnes. Et c'est très regrettable. Je pense que relativement à ces nominations, il faut poser un regard à la fois, on va dire, factuel et substantiel. Ce qui me fait faire peut-être un petit cours d'histoire politique, Kaoudim est longuement revenu sur la question. Docteur Traoré aussi a un peu brossé la problématique. Ce qui est aberrant, c'est que de 1960 à aujourd'hui, tous ceux qui ont accédé, comme elle l'a dit, au grade de général de corps d'armée ou au grade de général d'armée, l'ont été à la suite d'un coup d'État. Il y a eu Moussa en 82, il y a eu ATT en 95, il y a eu Sanogo en 2013, et aujourd'hui, nous avons nos 5 colonels. Donc, pour dire que ce qui m'amène à la question du mérite, est-ce que le militaire qui fait un coup d'État a plus de mérite qu'un militaire qui reste républicain et qui respecte son serment de protéger la République et de rester sous l'autorité d'un pouvoir civil? C'est une question qu'on est en droit de se poser. Et partant de cette problématique du mérite, je pense qu'il est important de porter un regard sur l'opportunité. J'entends tout le temps des gens dire, oui, si les militaires sont venus au pouvoir, c'est parce que le pays était mal géré. Il n'y a pas aujourd'hui un seul pays dans le monde, je l'ai dit, où ceux qui sont dénoncés aujourd'hui comme, on va dire, des conditions qui favorisent le coup d'État ne sont pas réunis. quand on parle de détérioration de la qualité de la vie, ça c'est partout dans le monde, même aux États-Unis. Quand on parle de corruption généralisée, il n'y a pas un seul pays où la corruption aujourd'hui n'a pas pignon sur rue. Okay. C'est à des degrés divers. Quand on parle d'insécurité, le Mali n'est pas le seul pays en proie à l'insécurité. Donc pour moi, ce sont des arguments qui ne doivent pas être mis en avant. Mm-hmm. Un militaire, c'est avant tout le sens de la République. Et un militaire, ça ne fait pas un coup d'État. Et le message qu'on envoie, c'est que pour atteindre le grade de général de corps d'armée, à travers ces nominations ou le grade de général d'armée, il faut faire un coup d'État. C'est clairement le message qu'on envoie aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne chose? On l'a fait une fois en 82, on l'a fait une fois en 95, on l'a fait en 2012 et on les refait. Donc c'est pour dire aux militaires, en termes de mérite, si vous suivez la logique, vous restez républicain, vous n'atteindrez jamais le grade de général de corps d'armée.
Donc pour vous, ce n'est
pas... serez à la limite général de division, point, et vous allez à la retraite.
Ok, donc pour vous, ce n'est pas un bon message.
Ce n'est pas du tout un bon message.
Okay. Je vais rapidement. Pour réaliser.
Maintenant, sur la faisabilité et les cadres substantiels, quand vous prenez l'ordonnance 015-2023 du 21 mars 2023 sur... statut général des militaires, il n'y a que trois façons d'accéder à un grade supérieur. Ça se fait en premier lieu sur les acquis, c'est-à-dire vous avez un diplôme, vous avez une décoration, vous avez fait une formation, etc., etc. Deuxième niveau, c'est à titre temporaire, c'est-à-dire on vous confie une mission spéciale et suivant cette mission, on vous donne un grade. Troisième niveau, c'est à titre exceptionnel. Quand vous faites un éclat ou vous menez une action d'envergure, est-ce que le fait de faire un coup d'État est un éclat, est une mission d'envergure? C'est une question qu'on est en droit de se poser. Question qu'on est véritablement en droit de se poser aujourd'hui.
D'accord.
Et ce qui m'amène à dernier point, à poser la question suivante, ça fait très longtemps aujourd'hui qu'on fait le procès de la démocratie. Je pense qu'il est temps dans ces pays de faire le procès des coups d'État. Il y en a eu 5. Et sur les 5 coups d'État, si on décompte le temps, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui a changé à travers ces coups d'État, je pense que si aujourd'hui on fait l'inventaire, beaucoup tomberaient des nues.
Ok, on va certainement faire peut-être le procès après, hein, on va faire les deux procès, procès de la démocratie, procès des coups d'État. Docteur Amadou Touré, ce soir vous êtes un peu bavard, je ne sais pas pourquoi.
Bon, ça va.
Allez-y.
S'agissant de la question, moi je ne veux pas m'attarder sur l'histoire, bon, c'est bien quand même, mais je veux m'présenter sur le point de la nomination pour les grades à titre exceptionnel.
Okay.
Mais s'agissant de la gradation de ce colonel de façon autoproclamée au grade de général, pour moi le contexte n'y sied pas. C'est-à-dire que le Malien lambda a d'autres priorités en termes d'électricité, en termes d'employabilité, en termes d'amélioration de conditions de vie. Mais cela étant fait, les questions se posent. Qu'est-ce qui pousse à nos autorités, en plus de l'autorité politique? Est-ce qu'il y a une urgence? Est-ce qu'ils ont besoin d'autres renforcements de capacités pour exercer le pouvoir dont ils détiennent déjà? Donc à ce niveau, est-ce que ces nominations ne seraient pas une façon pour eux de renforcer leur leadership au sein de l'armée, des besoins de renforcement de capacités, à plus d'adoubler l'autorité politique à l'autorité militaire? Maintenant, les nominations de façon autoprogrammée, à titre exceptionnel, il y a des arguments qui varient. Est-ce qu'on peut être nommé général à partir d'un grade de colonel si on s'en tient aux nominations exceptionnelles? Non seulement on peut parler des acquis en termes de changement, des acquis en termes d'opération, des acquis en termes d'opération d'envergure, des acquis en termes d'opération de reconquête territoriale. Donc, dans ce cadre, est-ce qu'ils méritent réellement leur grade? Si oui, mais en réalité, le contexte ne s'y est pas. Est-ce que cela voudrait dire que au Mali, de façon exceptionnelle, on a les acquis, non seulement la reconquête territoriale, on a libéré le Mali, on a fait le procès à la France. Est-ce que ce sont des éléments substantiels pour dire oui, nous allons à ces grades de nomination? Maintenant, la question qui se pose, est-ce que ces nominations en soi sont conformes à la forme et au fond? On peut dire oui, parce que qu'est-ce qui se passe? Les nominations ont été faites non seulement à partir d'un conseil de ministres, et dans le fond, c'est à titre exceptionnel. Maintenant, ces nominations, là où il y a le débat, parce que ces nominations font fi au texte. Ça, tout le monde est unanime. Ces nominations ne suivent pas les textes.
Mais dans le cadre exceptionnel, le débat peut avoir lieu. Non seulement, si on parle de reconquête territoriale, de la prise des villes, est-ce que ce sont des arguments qui suffisent pour qu'on puisse aller au titre des grèves? Pour moi, le débat n'est pas à ce niveau. Okay. Pour moi, le débat se situerait plutôt, est-ce que ces nominations vont porter un élan aux désormais généraux pour non seulement ramener l'électricité, ramener les problèmes de courant, ramener améliorer les conditions de vie.
Oui, donc pour vous, qu'est-ce que ça va changer dans le quotidien des Maliens?
Absolument.
Oui, d'accord.
La question se pose.
Oui, c'est ça votre question. Issa Kodjim, si je comprends, j'essaie de comprendre ce que Soumaïla l'a dit, et quand il parle de Amadou Toumani Touré, c'est ATT, qui, c'est Alpha Omar Konaré, président élu, démocratiquement élu, qui lui donne son titre de général. Et quand on prend le cas aussi du capitaine, comme on le dit souvent, bombardé général Amadou Aya Sanogo, c'est aussi un président, même s'il n'a pas été élu, c'était un président intérimaire, Diokounda Traoré.
Il tirait sa légitimité de la Constitution.
De la Constitution, Diokounda. Et dans le cadre d'espèce, le président Assimi, on peut dire que lui, même si le chef de l'État, il n'est pas élu. N'est pas président de la République.
D'accord. Moi, je pense qu'avant de répondre à cette question, le brillant cousin qui fait vraiment un attelage intellectuel d'amphi de l'université, sauf que on parle de deux choses qui sont tout à fait différentes.
Est-ce que vous avez vécu dans les camps, vous? Est-ce que vous connaissez un peu la vie des...
Substantiellement. Okay. Mais je n'aime pas trop parler de l'armée pour des raisons que vous savez toujours. Mmh. Mais sauf que ça fait débat sur la place publique.
Okay.
Moi, j'ai dit quelque chose que peut-être qu'on n'a pas voulu porter le fond du débat sur ça. Oui. C'est qu'aujourd'hui, est-ce que l'autorité militaire est soumise à l'autorité politique? Non. Ceux qui ont l'autorité militaire, c'est eux qui ont l'autorité politique. Maintenant, depuis 4 ans, on est dans cette situation, personne n'a bronché. Et la chose la plus importante, quand on parle d'opération d'envergure, depuis que le Mali a été envahi, par après le coup d'État de Sanogo, que tout le monde a regretté, qui a été un fiasco, mais les forces onusiennes étaient sur place. Le Mali était pratiquement dépouillé de tous ses moyens militaires pour faire face à ces crises multidimensionnelles. Mais aujourd'hui, on parle seulement que de crise sécuritaire. Et ça, c'est une opération d'envergure. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, l'armée malienne, que je félicite d'ailleurs, est capable de se déployer sur l'ensemble du territoire pour faire face à l'ennemi. Et ça, personne ne peut nier. Et Kidal, qui était considéré comme amputé du Mali, est devenu malien. Donc maintenant, ça, opération d'envergure existe. Okay. Maintenant, vous parlez des textes. Mm-hmm. Moi, je pense que maintenant, finalement, qu'on arrête les textes. Depuis qu'on a fait, on a accepté, consommé la rupture de 2020, on n'est plus dans les textes. On est dans une situation exceptionnelle. Donc, si on prend des décisions exceptionnelles, là où je pense qu'il faut porter la réflexion, elle doit être portée, quelle est la pertinence à ce moment précis.
Okay.
Et moi, honnêtement, si les militaires, parce que c'est ce que je l'ai dit, s'ils acceptent mon soutien, j'allais leur dire que ce n'était pas le moment. Ce n'est pas qu'ils sont généraux qui posent problème, tout le monde est unanime que ce qu'ils ont fait en tant que colonel, aucun, comme vous l'avez dit, aucun coup d'État n'avait un officier aussi élevé des grades comme eux, parce que Mamadou Toumani Touré était lieutenant colonel. Et ils sont des colonels pleins, même colonel major. Maintenant, prime au coup d'État, oui ou non à la fois. Oui, pourquoi? Parce que Alpha disait qu'il n'y a pas de bon coup d'État. Mais là, est-ce que cette fois-ci, ce coup d'État qui a libéré le Mali des forces onusiennes, est-ce que c'est un bon coup d'État ou pas? Cette question, les Maliens sont résilients.
Est-ce qu'on peut dire que Issa Kodjim est déjà en campagne, non?
Bon, je soutiens...
Vous rappelez ici que les élections, c'est pour bientôt. Est-ce que vous déjà êtes en train de donner le programme?
Moi, je ne dévoile pas un secret, mais je suis informé.
Okay.
Ce que je vais vous dire, si Assimi me demande de l'aider, je vais le faire. Maintenant, je ne suis pas sur le plateau pour justifier, mais je donne mon opinion. Okay. Les politiques aujourd'hui qui se mettent en branle, parce qu'ils ont compris qu'Assimi étant chef militaire, il fait cette nomination, c'est un signal fort. Ça veut dire que la campagne militaire est terminée. Maintenant, j'ouvre la porte à la campagne politique. Parce que s'il était dans la logique de partir, il n'allait pas faire cette nomination. C'est le président élu qui allait le faire. Ça, c'est la tradition républicaine. Parce que je l'ai rappelé, pas que c'est bon ou pas, seul Alpha a nommé ATT général d'armée après avoir organisé des élections pour dire que ça a été fait, il a remis le pouvoir aux civils.
Okay.
Moussa Traoré a fait 23 ans, c'est lui-même qui s'est donné, parce qu'il avait l'autorité militaire et politique. Aujourd'hui, 4 ans, ils ont l'autorité militaire et politique. Et Assimi va aux élections, tout le monde le sait, à moins que ceux qui n'ont pas les informations. Donc pour moi aujourd'hui, c'est pour dire tout simplement bravo le travail qui a été fait pendant 4 ans. Et ils ont nommé des colonels au grade de généraux, personne n'a crié au scandale. Pourtant, c'était des colonels comme eux. Maintenant, c'est eux-mêmes qui ont l'autorité politique. C'est à ce titre-là qu'ils l'ont fait. Ça viole les textes républicains. On peut dire oui, mais est-ce que sur le fond, parce que c'est là la question, est-ce que sur le fond...
Ils ne méritaient pas. Ok. Voilà. Oui, docteur Aminatou Traoré, hein, revenons un peu sur le contexte, parce que ça, Kodjim aime parler souvent de contexte. Le contexte 2020... Oui, quand les colonels sont venus, hein, le message était clair, nous sommes venus parachever la lutte du M5-RFP. Donc quand on essaie de faire un rappel historique, avec le contexte, qu'est-ce qu'on peut trouver à dire? Est-ce qu'on peut dire que ceux qui sont venus parachever la lutte du M5 ont été mieux servis que le M5 lui-même?
Bon, honnêtement, je n'aimerais pas m'aventurer dans ces débats, dans le débat de cette forme. Okay. Essayer de mettre, parce que moi... Bon, en tant que société civile et en tant que républicaine, même la lutte de M5, la forme de la lutte de M5, je l'ai remis en question, tu le sais, et depuis toujours. Parce que je pense qu'on avait d'autres moyens et d'autres leviers et pour aider à la bonne gouvernance que d'aller vers créer des situations qui donnent des opportunités à des opportunistes audacieux qui font le coup d'État et qui se... qui arrive à se récompenser par rapport à cela. Okay. Donc, je remets en question l'opportunité réelle de ces autopromotions-là. Parce que pourquoi? Je vais rappeler d'abord que Assimi, en 3 ans, a eu à nommer environ 36 généraux. Est-ce que c'était opportun? Parce qu'on parle du contexte, et le contexte est exceptionnel. Pas seulement pour donner des grades aux autorités, mais aussi pour regarder le peuple, pour regarder, c'est-à-dire la situation exceptionnelle, et puis travailler pour le peuple. Il ne s'agit pas seulement pour donner des opportunités aux autorités. Donc, 36 généraux, déjà, moi, je pense que c'est beaucoup pour 3 ans. Et quand on regarde le coût de ces généraux, ça aurait pu vraiment aider à autre chose. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on ne va pas continuer à refaire les mêmes choses et espérer le changement. Tout le temps, c'est dire qu'on est dans des situations exceptionnelles. Il y a ceci, il faut des comportements exceptionnels. Et moi, je pense que ces situations exceptionnelles doivent aussi nous permettre de retenir des leçons, d'apprendre des leçons et d'adapter. Et je l'ai dit haut et fort, l'armée, ce n'est pas seulement que, c'est-à-dire les matériels, les armes et les conditions, c'est aussi les conditions humaines. Okay. C'est une armée juste qui respecte son processus de promotion. Okay. C'est une armée juste qui reste républicaine. Et pour éviter toute forme de frustration, et du développement de mentalités non républicaines au sein de notre armée. Okay. Moi, je pense que même si la situation est exceptionnelle, il est important que nous gardions certaines choses à leur place. Okay. Ça en va pour la survie générale de notre pays.
D'accord. Donc, pour vous, hein, l'armée doit rester républicaine.
Et républicaine.
Ok. Oui, Soumaïlala, sur la question, le contexte politique, et puis pour vous, Issa Koudjim qui dit bon, que le contexte peut-être ne s'y prête pas, mais que les grades tout de même sont mérités. La promotion est méritée.
Oui, la promotion est méritée, je ne le dirai pas encore une fois. Ce qui aurait peut-être été logique pour moi, ce sont des colonels. Ils seraient de toute façon passés généraux. Ce qui aurait été logique, c'est de passer au grade suivant. Ça aurait été logique parce que ça fait un certain nombre d'années qu'ils sont colonels. Ça aurait été logique. Mais de colonel au plus haut grade, on est en droit de se poser des questions. Maintenant, quand Kaoudjim légitime les grades par le fait d'avoir une légitimité politique, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord avec lui. Chez les militaires, la fonction prime sur les grades. Assimi est président de la République.
Il est le président de la transition,
pardon.
Ouais.
Et il est le premier militaire, le chef suprême des armées. il n'a plus de légitimité à aller chercher ailleurs tant qu'il est président de cette transition, chef de l'État. Ça, c'est une logique. Et je tombe un peu des nues quand j'entends Kaoudjim aujourd'hui dire bravo et que le bilan, il est plus ou moins positif. Moi, je n'ai absolument, comme je le dis tout le temps, rien contre ces cinq colonels. Et de façon scientifique, sur le plan scientifique, je produis énormément de documents sur les questions sécuritaires. Et dans ces documents, je fais des analyses, je fais des propositions. Ça, c'est très constant. Okay. Ceux qui me suivent savent. Maintenant, dire aujourd'hui que le bilan est positif, je pense que c'est son opinion personnelle. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais il a quand même tenu à plusieurs reprises des propos qui n'allaient pas dans ce sens. C'est pourquoi je dis que je tombe des nues sur un certain nombre de questions, que ce soit sur en termes de gouvernance, en termes d'état de droit, en termes de respect des engagements, en termes de gestion du quotidien du Malien. Il y a beaucoup de choses qui laissent à désirer.
Okay.
Maintenant, sur Kidal et sur les aspects militaires, moi, personnellement, j'ai été de ceux qui ont protesté contre l'arrivée de l'armée française au Mali à l'époque. Et beaucoup de Maliens avaient applaudi à l'époque. Et s'il y a un aspect que j'ai apprécié durant cette transition, c'est le départ des forces internationales. Ça, c'est constant. Pour moi, c'est un problème entre Maliens et c'est aux Maliens de régler leurs problèmes. Maintenant, sur les autres considérations, encore une fois, je l'ai dit, Kaoudjim est comptable de ce que le Mali vit ces cinq dernières années. Ils sont descendus dans les rues dire...
Non, il n'est pas aux affaires.
Il est comptable.
Il n'est pas aux affaires.
Il est comptable. Non, il était du M5.
Il n'est pas aux affaires aujourd'hui.
C'est eux qui ont fait le coup d'État en vrai. Les militaires sont venus parachever, comme ils le disent.
Mais ils ne sont pas venus après. Mais, il a payé.
Comme je l'ai dit, il n'y a pas un seul pays au monde où aujourd'hui les défis ne sont pas au-delà, on va dire, des capacités des gouvernements. Maintenant, ce qui fait la différence entre les pays, c'est la capacité des institutions, la maturité des institutions à faire face aux demandes. Et c'est cet aspect qui doit être travaillé. Malheureusement pour nous aujourd'hui, au lieu de travailler sur ces aspects, qui sont des aspects sous-jacents, on va dire, au coup d'État, tant qu'on ne travaille pas sur ces aspects, on sera dans un cycle de coup d'État à n'en pas finir. On est aujourd'hui dans une logique de militarisme qui fait qu'il y a une prééminence de l'armée sur les aspects politiques, sur les aspects administratifs, et ça, sur la durée, c'est pas une bonne chose.
Ok, sur la durée, c'est pas une bonne chose. Docteur Amadou Touré, la cérémonie de remise ou bien de grade, c'est pour le lundi.
Tout à fait.
Voilà, donc tout est allé. Bon, très bien. Est-ce que vous serez à
la cérémonie? Bon, pas du tout, parce que ça, c'est peut-être Kaoudjim qui est... Mais en réalité, la question qu'on se pose, pourquoi cette précipitation, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un besoin de leadership militaire, de renforcement entre eux? Bon, c'est des questions qu'on se pose en droite ni une main. Ce qu'il est important que le camarade la retienne, c'est que les grades exceptionnels obéissent à des critères. Dans les critères, j'avais parlé non seulement des acquis des opérations d'envergure, non seulement l'extension de l'autorité de l'État, et surtout le cadre actuel. C'est-à-dire que le Mali, dans le système actuel où il y avait une crise multidimensionnelle, ce que les politiques n'ont pas pu réussir durant la transition, ça a été notamment la reprise de certaines villes, notamment chez moi à Tombouctou, où il y a l'autorité de l'État qui n'était pas auparavant. Il y a l'extension de l'autorité, l'État exerce son autorité. Il y a les va-et-vient sur Ber et Tombouctou. Ce n'était pas facile avec les politiques. Maintenant, le titre à garde est socionnel. Pour moi, ce n'est pas de débat de fond. Pour moi, l'urgence, comme tu l'as dit, c'est que ces grades permettront certainement d'avoir un pouvoir militaire, d'avoir un pouvoir politique qui va non seulement nous enlever dans cette situation où la vie est chère, où on n'a pas d'électricité, où les écoles sont fermées, où il y a l'une. Vraiment, les besoins sont immenses. Et même cette histoire, pour moi, c'est déjà fini parce que demain, c'est la remise. Donc, c'est vrai que c'est une histoire qui est déjà clôturée. Et comme là, c'est une nouvelle étape.
Oui, mais d'accord. Donc, on va finir avec cette question. Il s'agit que maintenant que les grades sont faits, on va aller aux élections. Vous l'avez dit ici. Qu'est-ce qui va changer?
Bon, avant de répondre, je
pense rapidement. Non, on avance.
Je pense que je n'ai pas parlé de de dire que
le bilan est positif.
Non, je ne parle pas du bilan. L'expression à lui, et quand j'ai dit qu'il faut voir le fond de la question, il a donné une interprétation que je ne vais pas dire erronée, mais ça n'engage que lui. Moi, j'ai dit qu'on est dans une situation bonne ou mauvaise, ce n'est pas moi qui l'ai créé, mais ça existe, il faut être réaliste. Assimi est le président de transition. Ça, c'est un pouvoir politique qui fait que fonction prime sur l'autorité militaire. Parce que quand on est ministre, de facto, on commande tout le ministre de la Défense, il est déjà le patron de toute la Défense. Alors que nous avons eu des civils ministres de la Défense qui obéissaient à l'autorité politique. Mais cette fois-ci, c'est les militaires qui ont l'autorité militaire et l'autorité politique. J'ai dit que sur le bilan militaire, personne ne peut contester que ce qui a été fait, parce qu'on a dit à titre exceptionnel, sur des opérations exceptionnelles. Et le Mali est libéré des forces onisiennes. Ça, vraiment, je pense que ça mérite même le maréchal. Il faut qu'on se dise la vérité. Maintenant, est-ce que ça se prête à ce qu'a dit le républicanisme? On n'est pas dans la République jacobin. On est en train de créer un modèle qu'on ne sait pas là où ça va nous amener. On a parlé de changement de paradigme. On a parlé d'aller vraiment à trois choses que moi, même si ce n'est pas trop ma tasse, mais je suis réaliste. Je me dis aujourd'hui, aider Assimi à venir sur le plan politique. C'est là, moi, ma réflexion. Ma réflexion n'est pas sur les grades. Quand on dit que ça va changer, c'est que ça va changer, je vais vous dire ça. Ça va changer parce que ça montre clairement la voie de sortie. Ces nominations sont des prémices aux élections. Et chaque fois quand le celui qui gère la transition, à la fin de la transition militaire, parce que vous avez dit, tous les pouvoirs militaires, il y a prime au coup d'État. Ça c'est clair, parce que tous les coups d'État militaires, à la fin, il devient le chef militaire. Tout le monde a regretté ici que le capitaine général. Et pourtant, on est passé là-dessus pour revenir, que pour qu'Ibeka puisse être, c'était le deal, pour que Sanogo accepte un peu... de revenir entre guillemets dans les institutions. Maintenant, il fallait accepter le choix. Est-ce qu'il fallait un affrontement ou aller à la prison? Maintenant, qu'est-ce qui doit être fait pour qu'on ne retombe plus dans les coups d'État? Je pense que c'est d'aider les militaires à sortir par la grande porte. Et là, déjà, il n'y a pas d'option. La seule option qui est sur la carte, prenez-y, c'est que nous allons aux élections.
Donc, pour vous, prochaine étape, les élections.
C'est les élections. Donc, puisqu'il y a les élections, les militaires qui ont fait le boulot, parce que même des hommes de rang ont eu des grades quand Kidal a été prise. Ont eu des grades. Donc maintenant, le cas de Assimi est politique. Et les cinq colonels, c'est politique. Donc, mais puisque c'est eux le CNSP, à la fin de mission, c'est eux qui ont accepté de prendre le risque. Parce que si le fait de faire partie les forces onusiennes n'était pas devenu une réalité, c'est eux qui allaient être les premiers à en subir les conséquences. Donc maintenant, ils doivent être les premiers à en bénéficier. Maintenant, bon ou pas bon, dans l'esprit républicain, on dira que non, c'est pas républicain, mais depuis quand on parle de républicain quand on assume de consommer un coup d'État?
D'accord. Oui, on va avancer dans le débat. Oui, c'est bon, on avance. Oui, ok, donc on va aller au deuxième thème. Docteur, vous n'avez pas
grand-chose à dire? Rapidement.
Oui, rapidement, en fait, on va au deuxième thème.
Tout ce que
on va aux élections, on peut avancer. Vous voyez, dit que la prochaine étape, c'est les élections.
Je sais qu'est-ce que les politiques, tout le monde, nous voulons aller aux élections. Mais il faut éviter de prendre certains risques juste pour aller aux élections et juste pour récompenser. Et puis, derrière cette histoire de récompense, qu'on le dise, il y a ça derrière. Au Mali, on va se dire que non, si on arrive à occuper le poste de chef de l'État, donc on ne doit pas sortir comme ça. Il faut cette récompense vraiment d'être chef armé. Et moi, je pense que c'est une mentalité malienne. C'est propre qu'en nous. Parce que on a dans l'histoire du monde, on a eu des coups d'État et qui n'ont pas été forcément récompensés. Et quand on fait un coup d'État pour en finir avec une mauvaise gouvernance, ce n'est pas seulement sur l'aspect sécuritaire que nous devons nous applaudir. Là, l'a dit, on était assez minoritaire par rapport à la venue de Serval au Mali. On était minoritaire à être contre parce que la présence d'armées étrangères n'a donné un bon résultat nulle part dans le monde. Ça, c'était déjà connu. Et on a été contre Selvar, on a été contre Barkhane, et aujourd'hui, ça ne nous rassure plus pas d'avoir d'autres forces étrangères dans notre pays. Et donc, quand on est en ce sens, parler du bilan est difficile. parce que la souveraineté aurait voulu que nous soyons nous-mêmes dans notre pays pour notre sécurité unique. Okay. Ça, c'est un aspect. Maintenant, par rapport aux exemples, le colonel Kadhafi a été colonel et il a redressé son pays pendant longtemps. On a le président feu, Jerry Rawlings Jones, il a fait le coup d'État, il n'a pas changé de grade.
Aussi, hein.
Il est revenu, il est parti, il a donné aux civils sans changer de grade et il est revenu avec le même grade. Et il s'est engagé pour des réformes dans son pays. Et quand on fait le coup d'État, en tout cas, moi, je rêvais quand même. Bon, on n'a pas pu empêcher le coup d'État, mais moi, je rêvais quand même des réformes assez profondes dans tous les secteurs, même dans l'armée. Donc, et on a eu ces exemples. Et quand il est revenu, il a fait ses réformes et il a démissionné. Il est revenu dans les... Donc, ce sont des choses que nous, on est là à développer et à valider, alors que ça crée d'autres choses. Je l'ai dit, l'armée n'est pas seulement un effet de moment, ce n'est pas seulement les matériels, c'est aussi l'état d'âme des hommes, et avec des processus qui violent les processus de promotion. C'est-à-dire des situations qui récompensent les personnes qui ont commis des crimes en instant des personnes qui se sont dit républicains et qui ont respecté l'autorité de leur pays et les textes de leur pays. Moi, je pense que ça fait plus mal à notre colonne vertébrale, c'est-à-dire le principal institution de notre souveraineté, que plus de bien.
Ok, et là, oui, rapidement,
déjà je voudrais préciser que je, à aucun moment je n'ai dit qu'il n'y avait pas de mérite. J'ai dit ce qui aurait été logique de mon point de vue, c'est de passer d'un grade au grade suivant. Oui. De toute façon, comme je l'ai dit, ils étaient déjà colonels. Maintenant, des colonels, ils doivent passer à quel grade? À partir de là, je pense qu'il y aurait eu une espèce de logique. Oui. Maintenant, sur... le fait d'être dans une logique de récompense, de partage du gâteau, je pense que c'est là où les dés sont pipés, en fait. Parce que quand c'est le message ou le signal d'un partage du gâteau qu'on envoie, c'est un très mauvais signal, en fait. C'est un signal pour dire à tout le monde que dès l'instant qu'on arrive à faire un coup d'État, on peut tout se permettre.
Okay.
Et encore une fois, j'insiste, c'est important. Que ce soit la corruption, que ce soit la détérioration de la qualité de la vie, que ce soit l'insécurité, c'est des choses qu'on retrouve dans beaucoup de pays. Vous prenez l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Sud, par exemple, l'Est, tout ça. C'est des pays qui ont été colonisés comme nous. Vous prenez un pays comme la Corée du Sud aujourd'hui, qui est à même de concurrencer les États les plus avancés de ce monde. Sur quelle base la Corée du Sud arrive à les faire? Sur la base du travail et du mérite. Et c'est ce qu'il faut inculquer, c'est le message qu'il faut envoyer. Le président sud-coréen qui a permis à la Corée du Sud d'être à ce niveau a massivement investi sur les ressources humaines. Pour la petite anecdote, il a fait appel à la diaspora sud-coréenne qui était... éparpillé un peu partout dans le monde, et il a pris une part essentielle du budget de la présidence pour que ceci puisse être payé sur les mêmes considérations que les salaires qu'il recevait à l'extérieur. Et aujourd'hui, les enseignants sont les fonctionnaires les mieux rémunérés en Corée du Sud. Et aujourd'hui, vous avez un pays avec une ressource humaine extraordinaire, et vous avez un pays avec une armée républicaine. Et vous avez un pays aujourd'hui qui a une économie extraordinaire et qui investit annuellement chaque année 20 milliards de dollars sur ses exportations culturelles. Vous avez Samsung, vous avez Hyundai, etc. etc. Mais aujourd'hui, c'est des entreprises qui sont des entreprises championnes. Mm-hmm. Et c'est des modèles qu'il faut développer ici. Mm-hmm. Le message que nous, on renvoie, c'est d'être dans la victimisation continue. Ce n'est pas un message. Il faut sortir de ces logiques de victimisation. Il faut aller vers du concret. Et aujourd'hui, il est important d'avoir des personnes qui ont une vision, qui portent une vision, et jusque-là, on ne l'a pas.
Ok, d'accord, oui.
Et la logique militaire ne peut pas être la seule logique.
D'accord, on va parler
de... On va avoir... En 30 secondes,
Là où je ne suis pas d'accord, parce que ces coups d'État, ou bien les activités du d'août 2020, tous les acteurs de lutte ont profité. D'autres ont été au CNT, d'autres au gouvernement, d'autres ont été dans les hôpitaux. Que c'était que des récompenses en récompense, qu'on soit clair. Mais pourquoi discuter sur ce cas, ce n'est pas là l'objet. L'objet, c'est que les coups d'État, c'est des histoires de récompenses à tous les niveaux.
C'est ce qui n'est pas logique.
C'est
qu'il faut même pas aller au coup d'État.
C'est la question qu'il faudrait se poser. Ce n'est pas seulement les généraux. Tous les acteurs ont été récompensés de près ou de loin. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, comme tu l'as dit, qu'on nous sorte de cette situation. On a besoin d'électricité, on a besoin de développement, on a beaucoup d'urgence.
D'accord, on va parler.
Mais là, en fait, il est difficile. Vous voulez laisser faire des digressions et vous me coupez la parole.
Non, je ne pensais que vous n'allez pas parler.
Mais ils ont chassé tout le monde, ils ont partagé le pouvoir entre eux. Ceux qui prennent le pouvoir, c'est au risque d'un changement. Maintenant, c'est le bilan qu'il faut apprécier. Okay. En 91, quand Moussa Traoré a été arrêté, on a dissous l'IDPM, on a dissous, on a mis une loi fondamentale. Les syndicats, les membres du barreau, tout ça, ils se sont retrouvés parce que c'était eux qui avaient mené la lutte pour se donner le pouvoir. Maintenant, le but du pouvoir, ce n'est pas pour garder le pouvoir, c'est pour faire une transformation, en tout cas sur les mots sur lesquels le peuple s'est battu. Okay. Et donc, je pense que c'est à ce niveau qu'il faut apprécier. Mm-hmm. Maintenant, pour ne pas trop monopoliser, qu'on passe au deuxième point, quand il fait digression sur Corée du Sud, comparaison n'est pas raison. Nous, notre problème à nous, lui-même il a dit, qui a provoqué cette situation? Nous sommes tous comptables, coupables à la fois. Maintenant, allons sur lequel je suis d'accord. Il faut une réflexion intellectuelle. Il faut vraiment voir là où ça n'a pas marché pour qu'on ne retombe plus à travers qu'il y ait toujours des cycles de coups d'État. On est d'accord. Ouais. Mais quoi faire pour arrêter les coups d'État? Cette question, vous ne la posez pas.
Oui, qu'est-ce faire pour faire les coups d'État? Il y a Laurent Gbagbo qui dit que le coup d'État fait partie de l'agenda des hommes politiques en Afrique. Hein? C'est ça qu'on dit, je ne sais pas si ça fait partie de votre agenda. Non, on va parler du deuxième thème de l'émission, et la dette intérieure, plus de l'État, le gouvernement malien qui a évalué 200 milliards de francs CFA et pour les créanciers, les fournisseurs. On va commencer avec Issaka Oudjim ou...
Allez-y,
on quitte un peu...
C'est des effets d'annonce. Hein.
Okay.
Voilà. Quand vous parlez de dette de plus de 3 000 milliards, qu'on parle de 200 millions, au moment où... 200 milliards, excusez-moi, c'est un lapsus. Bon, c'est des effets d'annonce. Okay. Même si on donne ces 200 milliards, c'est mieux que rien, mais ça ne résout pas le problème. Le problème aujourd'hui, c'est comment sortir du marasme économique. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que même si vous donnez un peu, pour soulager un peu ceux qui ont fait des prestations, soit en bon de trésor, soit des fournitures ou autres services, que l'État doit payer parce que c'est l'air dû, mais on est à la fin de l'année. Donc, on va commencer encore avec une nouvelle année. Est-ce que c'est même qui vont avoir un peu, seront en mesure avec les pénalités des banques, avec les fournisseurs, avec vraiment tout ce qu'ils ont perdu, est-ce qu'ils seront vraiment chauds pour revenir? Je pense qu'aujourd'hui, il faut trouver des réponses structurantes à comment gérer le secteur. Okay. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, le ministre du Commerce et d'Industrie devient plutôt... vraiment, je ne sais pas, porte-parole politique et des militaires plutôt que quelqu'un qui cherche des solutions. Et le ministre des Finances, lui, pratiquement, il ne parle pas. Le premier ministre est dans ce qu'il sait faire de mieux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut changer la locomotive. Ce gouvernement ne peut pas régler cette question. Okay. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de trouver un technocrate, quelqu'un qui connaît le milieu, qui n'est pas vraiment dans des affaires d'intrigue politique, qui vient avec une feuille de route claire, et pour que une nouvelle année puisse vraiment nous permettre et qu'il y ait une bonne gestion des derniers publics, mais qu'il y ait une opportunité et puis rassurer le secteur. Okay. C'est de cela qu'il s'agit. Sinon, 200 milliards par rapport à 3 000 milliards de dettes, je pense que ça ne peut pas régler. Et puis surtout, c'est les effets d'annonce parce qu'on n'a pas donné des chiffres sur quel secteur, comment, ben maintenant, en disant ça, peut-être que ça va permettre de dire, enfin, maintenant, on va essayer de payer.
D'accord.
Mais je crois que cette fois-ci, peut-être que ça serait une promesse tenue.
D'accord. Docteur Aminatou Traoré, la question.
Bon, sur la question, 6%, chez nous, les scientifiques, c'est déjà un pas. Quand on met ça dans une courbe, c'est déjà un pas.
Ok.
Et ce qu'il faut espérer, c'est que ça ne reste pas comme le grand frère l'a dit, un ne fait d'annonce. Okay. Et il est aussi important, comme le partage des gâteaux est devenu vraiment monnaie courante, on justifie des partages de gâteaux avec d'autres partages de gâteaux antérieurs. C'est qu'on est dans un cycle dans lequel on ne va pas en sortir parce qu'on ne pourra jamais faire du nouveau avec les anciens.
D'accord.
Donc j'espère que ça ne sera pas un partage de gâteaux et que ce sont des proches qui seront ciblés, les entreprises proches du pouvoir qui seront ciblées, mais que ça sera partagé d'une manière assez efficiente pour vraiment les entreprises qui souffrent, qui sont à l'agonie.
Ok. Voilà. C'est docteur Amadou Touré.
Bon, sur cette question, moi, je suis...
Est-ce que vous avez des mandats qui attendent, non?
Bon, pas du tout. Okay. Peut-être là ou bien... Absolument. Sur cette question, c'est bien, mais c'est insuffisant. Et c'est pour dire que ça a des effets d'annonce. Par exemple, qu'est-ce qui est urgent à ce point? C'est-à-dire qu'il faut une relance économique. C'est-à-dire que le plan de riposte du gouvernement n'a pas marché. Oui. Il faudrait une nouvelle vision qui nous indique clairement là où on voit qu'est-ce qu'on doit faire. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une relance purement économique du pays. Et aussi qu'on change de paradigme, parce qu'il faudrait qu'on investisse plus, qu'il y ait d'autres subventions, notamment dans les secteurs de l'agriculture tels que les légumes et les fruits qui n'ont jamais été subventionnés.
Okay.
Et aussi, cette relance, moi, à mon niveau, peut être un ouf de soulagement, mais qui ne rassure pas. Parce que, comme on l'a dit, la plupart des soudeurs sont devenus des conducteurs de télémanie. C'est-à-dire que tellement que les gens ont eu des difficultés par rapport à la distribution ou à la fourniture d'électricité, ce problème devait être réglé.
Okay.
200 milliards sur 3 000 milliards, c'est insuffisant. Mmh. Mais on peut l'accepter quand même. Si défaut de 0 franc, on peut l'accepter.
Pour l'anecdote, il y a un confrère, l'enfant Peul, qui dit que les gens qui viennent de l'aéroport, à l'aéroport, au lieu de prendre le taxi, prendre des motos taxi, parce que il dit qu'il y avait le rat, il disait qu'il y avait, il y avait un rat.
C'est vrai.
Voilà, parce que le taxi, souvent, c'est l'assurance chère, voilà, c'est cher, et puis les gens préfèrent, en toute discrétion, prendre le moto taxi jusqu'à domicile. Oui, J'allais dire, docteur, certainement que vous êtes sur le point de valider certainement la thèse. Sur cette date intérieure et puis cette
encore
équation.
Encore une fois, c'est une déclaration d'intention. Donc, pour le moment, il n'y a rien qui a été matérialisé. On attend que ça se matérialise.
Il s'est dit que les paiements vont commencer demain.
Bon, on attend de voir. Mais ce qui, pour moi, est quelque peu peinant, c'est le fait que Le fait de payer la dette intérieure ou les dettes, c'est le processus normal de fonctionnement d'un pays.
Ça ne doit pas être un événement pour vous, quoi.
Ça ne doit absolument pas être un événement. Quand ça devient un événement, c'est qu'il y a un problème. Ça, c'est une logique. Ça, c'est une logique, c'est une constance. Un État, ça s'endette pour faire face aux besoins. Et quand vous prenez les ratios taux d'endettement et PIB nominal, le Mali est dans les normes UEMO. Le Mali est à peu près 50% et je pense que la limite n'est pas franchie. Si je ne me trompe, dans l'espace UEMO, c'est 70%. Okay. Donc, le Mali est dans les normes. La dette, l'enveloppe globale de la dette, c'est plus de 6 000 milliards. Et sur les 6 000 milliards, il y a 3 500 milliards qui sont couverts par la dette intérieure. Okay. Et sur ces 3 000 milliards, il y a 200 milliards qui doivent être payés. Et sur les 3 500 milliards, ce qui est intéressant, c'est que le taux de maturation, c'est sur les 5 années à venir. Ça, c'était, je pense, en 2023. Donc, l'État doit payer les 3 500 milliards, si mon analyse est bonne, les économistes peuvent me corriger, sur les 5 années à venir. Maintenant, la problématique, c'est est-ce que l'État, au regard de tout ce qui se passe, est en mesure d'honorer ses engagements? C'est ça la question. Quand on sait, aujourd'hui, que nous avons une économie qui est en grande difficulté, nous avons l'essentiel du budget qui couvre que le fonctionnement.
Okay.
Ça, c'est une grosse difficulté. Et sur l'essentiel de ce budget qui couvre le fonctionnement, vous avez une grande partie qui va dans l'armée, qui va dans l'opérationnalisation des forces de défense et de sécurité. J'ai l'habitude de dire encore une fois sur ce plateau que c'est bien de pacifier le pays, c'est bien de doter l'armée, mais il faut créer un équilibre. Parce que pour avoir de l'argent pour équiper l'armée, il faut que les entreprises soient compétitives, il faut que l'économie soit dynamique, il faut que de la valeur ajoutée soit créée. Il faut que des richesses soient créées pour que l'État puisse être en mesure d'avoir des recettes qui puissent lui permettre de faire face à des besoins. Donc la grande question que moi je me pose, est-ce que aujourd'hui notre État est en capacité de faire face à la dette de façon globale?
Ok. On a une question qui reste posée. Hein. On va, oui, oui, ça que dit, oui. Allez-y.
Bon, moi je partage pas son analyse académique. Hein. Voilà. Il avance des arguments sur des chiffres qui existent. Ça, c'est un intellectuel, il est très brillant. Mais sauf que l'aspect politique de la question, peut-être que ce n'est pas trop sa tasse. Vous savez, aucun pays, quoi qu'il en soit, ce que vous développez, quand le pays est isolé, il a forcément un problème de financement. Le Mali est isolé. Parce qu'on est dans un système où nous-mêmes, on devient un dégât collatéral. La guerre entre la Russie et l'Ukraine en train d'impacter sur notre partenariat avec le monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est la guerre froide qui recommence sans dire son nom. Alors que le Mali a toujours été un pays qui a toujours eu l'intelligence d'avoir de l'équilibre entre les différents courants pour préserver ses intérêts. Et malheureusement, vraiment, avec mes amis militaires, leur positionnement systématique sur la Russie nous a beaucoup pénalisés dans beaucoup de choses. L'Union européenne était vraiment le premier partenaire, pratiquement, pas la France, je parle de l'Union européenne. Et les institutions, des ramifications, quand on parle de BAD, de Banque mondiale, tout ça, quand vous n'êtes pas en odeur de sainteté avec ce monde-là, et le robinet est fermé. Et donc maintenant, nous aujourd'hui, la gestion du gouvernement est plus politique qu'une gestion de bonne gouvernance. Parce que quand vous regardez, je ne vais pas nommer, mais vous savez, aujourd'hui, on parle plus de clarification que de chercher des ressources pour investir dans le pays. Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que les militaires, c'est ça que là où je suis d'accord, de les soutenir, de les aider à ce qu'on arrive sur le plan politique, qu'il y ait des élections générales. Je crois que cela peut redresser beaucoup de choses pour que vous trouviez des réponses à tout ce que vous essayez d'expliquer intellectuellement.
Ok.
Rapidement, il dit subtilement que les militaires ne sont pas à la hauteur. Il le dit.
Ah non,
il dit qu'il n'est pas d'accord. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec mon analyse, mais si on interprète ce qu'il dit, il dit subtilement qu'ils ne sont pas à la hauteur. Ça, c'est le premier point. Deuxième point.
Il dit que sur le plan économique, il y a des problèmes parce qu'on est isolé, c'est ce qu'il a dit.
J'ai une bonne lecture de, on va dire, l'évolution politique du Mali. Et dire que le Mali a des problèmes parce que le Mali est isolé, c'est un choix. C'est un choix qui a été fait par le Mali. Et ceux qui sont à la tête du Mali aujourd'hui disent qu'ils assument ce choix. Donc, s'ils l'assument, tant mieux. Maintenant, l'autre aspect, quand l'État aujourd'hui n'arrive plus à donner de l'électricité au Mali, à permettre aux entreprises de fonctionner, est-ce que c'est dû à un choix? Est-ce que c'est dû à un choix? C'est une question qu'on se pose.
Okay. D'accord. Bon, la question est posée.
Oui. Je dirais que c'est un choix. Hein, parce que, au fait, ce qu'on oublie dans la gouvernance, c'est que la sécurité ne se résume pas à la sécurité
classique.
C'est-à-dire à la sécurité des biens et physiques. La sécurité, voilà, de la libre circulation.
C'est un tout, quoi.
C'est un tout. Il y a la sécurité alimentaire, il y a la sécurité économique. Et toutes ces formes de sécurité peuvent aller au même niveau. Ce qu'on crée, nous créons tous à la mort.
Okay.
Toutes ces insécurités peuvent conduire à la mort. Okay. Donc, ce n'est pas seulement que nous subissons une guerre, qu'il faut réaliser un ensemble. Donc, voilà, ça montre encore, je ne sais pas si c'est un effet militaire, la capacité. Et ce n'est pas pour réduire, parce que nous avons vraiment des militaires intellectuels qui vraiment des généraux et qui sont vraiment intellectuels, qui ont mérité vraiment leur grade, que ce soit par rapport à l'ancienneté et par rapport à la formation intellectuelle qu'ils ont eu. Mais ça montre un peu quand même des limites de la compréhension générale de tous les secteurs et de comment ils travaillent.
Ok, donc, voilà. D'accord, on va voir que ça va avec les élections, hein, comme Issa Kodjoum le dit, hein, est-ce que ça va changer quelque chose dans la donne? Dernier thème de l'émission, l'activiste journaliste, influenceur Kemi Seba, qui retrouve sa liberté. Et donc, et après une garde à vue, liberté sans poursuite. On va commencer avec Docteur Amadou, qui n'a pas parlé. Et puis Kemi Seba, il s'est dit, il y a beaucoup sur la toile qui disent que malgré sa critique acerbe contre la France, on dirait qu'il aime la France. Il n'empêche, il ne rate aucune occasion pour s'y rendre. Et puis, mais j'ai même vu des activistes aussi qui, de façon frontale, l'attaquent. Voilà, ils disent qu'ils ne comprennent pas sa démarche. Vous, quelle est votre analyse?
Bon, en réalité, concernant...
Liberté sans poursuite.
Liberté sans poursuite pour Kenny Saba. Le fait même de retourner en France, pour moi, je qualifierais ça plutôt d'une défiance par rapport à l'autorité. Parce que ça sent bien qu'il a des difficultés et qu'il met à mal les intérêts de la France. Maintenant, s'agissant de l'arrestation elle-même, là, ça pose problème parce que venant de la France, de mon doyen, une France de liberté et de droits de l'homme, c'est vraiment très déplorable et triste. Parce que voyant l'arrestation de Kenny, on pensait que c'était un chef djihadiste. Des gens cagoulés armés jusqu'aux dents pour l'arrêter au restaurant. Donc, cela veut dire qu'il y a vraiment cette situation de tristesse et aussi... Les raisons n'ont pas été évoquées. Jusqu'à présent, officiellement, on ne sait pas les motifs.
Donc, oui, c'est les suspicions. On parle de connivence.
De connivence avec quelque chose. Ça, c'est deux jours après. Ça, okay. Donc, ça veut dire que les droits de l'homme continuent toujours à être bafoués par des donneurs de leçons. Donc, c'est les enseignements qu'on peut en tirer pour dire que la France, quand elle se sent comme elle sent que ses intérêts sont en jeu, elle met tout pour la défense de ses intérêts.
Okay.
Maintenant, que Kenny Seba aussi arrête des provocations frontales. Tu ne veux pas la France pour qu'elle est en France. Là, vu qu'il y a les deux poids, deux mesures, c'est celui qui montre que son incompréhension vis-à-vis du panafricanisme.
D'accord, oui. Docteur Aminatou Traoré, sur la question, oui. Kenny Seba est liberté sans poursuite.
Bon,
après ça, une garde à vie, bien sûr.
Oui, ça montre que déjà, la France est un état de droit. Parce qu'on l'a arrêté et voilà, la justice l'a libéré. Ça montre que la France est un état de droit. On aimerait tous avoir des états comme ça. Okay. Et en dehors de ça, ça montre encore c'est-à-dire la lutte de panafricanisme. Est-ce que c'est réel? Ce qu'ils sont en train de mener, est-ce que c'est réellement bon? Parce que jusque-là, c'était des luttes de victimisation montrant que tous nos problèmes, c'est de l'Occident. Au même moment, on n'a eu aucune lutte pour qu'on ait des plateaux techniques en termes de santé adéquats pour vraiment accueillir lui, son père, parce qu'il dit qu'il est là-bas parce que son père est hospitalisé, je ne sais pas, voilà. Donc, la lutte... panafricaniste doit être vraiment une lutte qui nous pousse à construire, à nous construire, qui doivent remettre en cause notre propre politique.
Okay.
Parce que c'est nos comportements qui favorisent, comme on le dit entre guillemets, l'exploitation par des politiques étrangères. Donc, voilà, ça montre encore que nous devons redresser notre lutte panafricaniste en nous développant intérieurement, en développant des politiques solides et en développant des sociétés civiles claires qui sont capables de se battre réellement pour l'intérêt général.
Ok. Voilà. Et Soumaïla, sur cette libération de Kemi Seba. Kemi Seba, vous l'aimez bien, non?
je ne dirais pas ça. Je suis pas, je n'ai rien contre lui, mais je ne suis pas en phase avec ses méthodes. Pour moi, ce qui s'est passé illustre beaucoup de choses. Jusqu'à preuve du contraire, il n'était pas interdit d'accès au territoire français. Ouais. Je peux me tromper, hein, jusqu'à preuve du contraire, il était venu, il a été français.
Ouais.
Il est né là-bas, il a grandi là-bas.
Ouais.
Voilà, c'est un pays qui lui a offert beaucoup de choses. Et quand il est revenu, il est venu munis d'un visa Schengen.
Ouais.
Donc pour dire que pour moi, il n'était pas interdit d'accès au territoire français. Il a été arrêté par les services de renseignement intérieur. Ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est que c'est la justice qui ordonne sa libération. Parce que la justice estime que les services de renseignement n'ont pas, on va dire, de matière nécessaire pour l'arrêter. En tout cas, il n'y a pas de fondement à son arrestation. Ça, c'est des choses qui doivent être les logiques d'une république. Les services de renseignement ne doivent pas supplanter la justice. La justice a pleinement joué son rôle. Sous certains cieux, c'est les services de renseignement qui donnent des ordres à la justice. Et ça, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommageable. C'est l'inverse qui doit se faire. Et c'est extrêmement important. Et encore une fois, la France, on peut faire beaucoup de reproches à l'encontre de la France. Personnellement, je fais beaucoup de reproches. Mais aujourd'hui, les droits de Simi Keba ont été respectés et préservés. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Bien. Maintenant, un autre aspect, Kemi Seba, ce qu'il fait, ce qu'il dit en termes de lutte anti-impérialiste, s'il fait la même chose contre certains États, soyez sûr que s'il met le pied dans ces États-là, aucune justice, aucune bonne foi au monde ne pourra lui permettre de sortir de prison.
Ok, d'accord. Donc, là, vous saliez. Bon, hein, j'ai fait exprès hein, pour finir avec Issa Koudjim, hein, parce que lui, il aime bien la France. Hein, voilà, il en parle d'ailleurs avec beaucoup. Fierté, d'ailleurs. Il parle de la belle France.
Avec hein, oui, Issa Koudjim. Ouais. Moi, c'est. Bon, je vais être très élégant parce que c'est un plateau sérieux. Ouais. Vous savez, la tête de ce monsieur, déjà, montre qui il est. Tout, ça montre qui il est. Mais je ne vais pas rentrer dans ça. Ce qui est important...
Qu'est-ce que sa tête peut vouloir
avoir? Non, je ne sais pas, non.
Non, je veux savoir
non, si... Non, mais regardez sa tête. Bon, la France, tout le monde est unanime, hein, que la France est un pays de droit. Et là, si vous voulez quelque chose, défendez avec conviction, par principe. Vous ne pouvez pas dire que vous avez des griefs contre la France, alors que le fondement même de la République, c'est l'état de droit.
Absolument.
Donc, si la France respecte les droits, malgré que ce faux prétendu panafricain qui n'en est rien, alors vient en Europe et il bénéficie des droits, des principes qui régissent la France comme un pays modèle de démocratie et de liberté et de droits de l'homme. Donc, on s'en félicite. Maintenant, l'aspect politique du panafricanisme, c'est ça qui est important. Okay. En réalité, il n'y a pas de panafricain. En Afrique, il n'y a même pas de panafricain. Il y en a qui font du bruit, il y en a qui se font remarquer, il y en a qui sont dans les diatribes, il y en a qui sont dans les livres d'histoire. C'est quoi la définition du panafricain? Le modèle de Kwame Nkrumah, Sékou Touré et autres, ils avaient un objectif. Leur objectif, c'était quoi? C'était d'aider l'Afrique à sortir de la balkanisation. C'était aider l'Afrique à ce que les pays africains puissent avoir l'aide des parents. Donc, ils ont mené ce combat panafricain avec des objectifs clairs. Et aussi, à un moment donné, ils sont mis ensemble pour lutter contre l'apartheid qui se visait avec l'Afrique du Sud. Donc là, ils ont mené un combat qui avait un objectif, qui avait un but, se sont battus, certains en un prix de leur vie, d'autres ont vu leur régime même renversé.
C'est pas la haine de l'Occident.
Alors, c'était pas la haine.
Quand on prend même les panafricanistes, la Kwame Nkrumah a été mariée à une blanche. Le Paul Sédar Senghor aussi.
Et même, il vient de parler de Yorling, son père est anglais. Donc, c'est pour vous dire que le panafricain...
Cheikh Anta Diop était marié à une Française.
Voilà, hein, donc, vous, voilà. Donc, c'est pour vous dire, aujourd'hui, ce que je vois, je respecte les gens, leur bagage intellectuel, mais je les mets au défi, il n'y a pas de panafricain. Il y a des bons Africains qui se battent pour l'Afrique.
Mais est-ce que ce n'est pas devenu du business?
Bon, c'est même plus que du business, c'est du show, comment disent les Américains là? C'est du showbiz. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils font vraiment comme un peu font ceux qui font du rock. Ils crient beaucoup pour se faire remarquer. Bon, en profitant, certains en profitent. Okay. S'ils sont en tout cas adossés à certains parapluies. Maintenant, le panafricain, il faut nous expliquer.
D'accord.
Maintenant, parce que moi, pour moi, le bon panafricain, c'est quelqu'un aujourd'hui, vu aujourd'hui l'Afrique, qui est dans un sous-développement, presque, je ne vais pas jusqu'à dire congénital, c'est le mot fort.
Chronique.
Chronique. Mais regardez aujourd'hui le taux d'alphabétisation de l'Afrique. Ne permet pas son développement. Deux, que font tous ces gens pour que l'Afrique se unie autour de trois valeurs essentielles pour assurer son unité, son développement? Un, il faut que l'Afrique ait une politique homogène sur le plan économique. d'intégration. Et au même moment, on se bat pour dire que c'est
une intégration. Il y a l'AES.
Hein, non, l'AES, pour moi, c'est le fleuve est sorti de son lit. Maintenant, moi, je ne vois pas ça comme une intégration africaine. Moi, je vois ça tout simplement comme des gens qui, à un moment donné, ont compris qu'ils étaient menacés, qu'on leur prend leur pouvoir. Ils se sont mis ensemble pour dire que bon, la CEDEAO, si c'est pour nous imposer des élections, bon, on n'est plus dedans. Sinon, ce n'est pas un projet ni économique. Voilà, moi, je ne suis pas dans ça. Maintenant, je pense que pour ne pas monopoliser la parole, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'ils veulent que l'Afrique retrouve ses fondamentaux. Il faut comprendre aujourd'hui quel est l'enjeu. L'Afrique est en retard de développement. Aujourd'hui, on est dans la politique, on a fini avec la politique d'industrialisation, mais c'est la politique aujourd'hui qui est menée aujourd'hui dans le monde, c'est la civilisation du numérique. Okay. Aujourd'hui, l'Afrique aujourd'hui n'est pas capable alors d'imposer dans le cours des grands. Okay. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin plus de ressources humaines et de qualité pour que les Africains puissent sortir.
Donc pour vous, c'est ça le vrai combat.
C'est ça le vrai combat. Contre la faim, contre l'analphabétisme, contre le sous-développement. D'accord. Mais ce n'est pas aller dire à bas la France ou vive Poutine. C'est
donc,
pas ça le
pan-africanisme. Donc pour vous, c'est pas ça hein,
le danger de votre part. Mais il faut la
galerie. On entame ici la dernière ligne droite de cette émission, la rubrique coup de cœur, coup de gueule, la partie où nos invités font l'actu, le générique. Oui, coup de cœur, coup de gueule, la partie où nos invités font l'actu, docteur Amadou Touré.
Par rapport au coup de gueule, c'est un soutien indéfectible à la jeunesse malienne, notamment la jeunesse de Sikasso, Ségou, Mauti, bientôt Tombouctou, parce que il y a une réduction des tarifs, il y a une réduction des prix du carburant, mais il n'y a pas de réduction des tarifs de transport. Donc un carton rouge à tous les transporteurs du Mali, qu'ils réduisent de façon automatique les prix, parce que les jeunes commencent déjà à se mobiliser dans les grandes villes citées. Et par rapport au coup de cœur, j'en ai deux. Le premier, c'est pour le grand Attaher, pour le courage et l'éditorial. Et je vous en félicite et je vous encourage. Donc, c'est le premier coup de cœur. Pour le deuxième coup de cœur, c'est toujours un appel à l'endroit de la région de Tombouctou, vu l'enclavement et les difficultés qui existent. Et un appel parce qu'il y a les inondations des plaines de Daï Amadia qui pourront être effectuées dans les prochains jours et les dispositions sont en cours autour des autorités. Donc c'est pour dire ici que nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés autour des autorités régionales pour renforcer les digues de Koréme et de Daï pour nous empêcher d'être inondés.
D'accord. Soumaïdala.
Moi, je vais commencer peut-être par un coup de gueule et finir sur un coup de cœur. Okay. Le coup de gueule, c'est toujours à l'endroit de l'hypocrisie internationale sur la situation, la cause palestinienne, où des milliers de Palestiniens continuent à se faire massacrer dans l'indifférence totale. Et je pense que le vrai combat aujourd'hui se situe à ce niveau et la communauté internationale, y compris notre État, nos États, doivent sortir de cette hypocrisie et prendre fait et cause pour la Palestine. Je pense que c'est extrêmement important. Il faut faire bloc derrière ce pays-là. Il faut que ce pays, aujourd'hui, soit reconnu officiellement. Il faut que ce pays soit un État qui puisse être géré indépendamment de, on va dire, toute considération en lien avec Israël. Okay. Coup de cœur, c'est, on est au mois d'octobre, le mois de la lutte contre... le cancer du sein.
Ah, ok.
Octobre rose. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir institué ces mois de lutte contre le cancer du sein. C'est un mal silencieux qui fait énormément de dégâts. Et j'invite toutes nos sœurs, toutes nos mamans à aller se faire dépister. Et j'invite les autorités à créer plus de moyens, plus de conditions pour une meilleure prise en charge des sœurs, des mamans qui passent des moments difficiles à cause de ces mal. Et je souhaite tout simplement prompt rétablissement à tous ceux qui sont affectés par ce mal.
Ok, de cœur, hein, avec ceux qui souffrent de cette maladie, hein, de ce mal silencieux, comme vous l'avez dit. Docteur Aminou Touré.
Ok, merci à Taïa. Mon coup de gueule, je dirais, revient encore de manière générale. Il s'agit de faire vraiment beaucoup d'efforts pour être regardant sur tous les aspects de gouvernance et être cohérent avec nous-mêmes, que ce soit maintenant ou à l'avenir, et de se dire que vraiment, on ne peut pas faire du neuf avec l'ancien. Voilà, mon coup de gueule, c'est vraiment, on ne va pas aller vers une rupture constitutionnelle sans réforme. Et de continuer à faire les mêmes choses. Et c'est vraiment déplorable. Donc c'est général parce que ça fait longtemps que je ne suis pas sur le plateau.
Okay.
Et mon coup de cœur va vers les déplacés des inondations.
Okay,
vraiment, qui est une situation vraiment déplorable. Et j'espère qu'à l'avenir, nous serons vraiment capables de prévenir de telles situations.
Ok. Voilà. On l'espère. Issa Kaudi.
Ben, d'abord, avant de parler de coup de cœur ou coup de gueule, je pense que c'est votre leadership que je salue de nous habituer à ce débat qui a devenu de plus en plus stimulant parce que le docteur, comment elle s'appelle déjà ?
Aminatou Traoré.
Aminatou Traoré, qui a de la matière, et je pense que ce débat autour de votre leadership à travers Djiliba TV, je pense qu'aujourd'hui, surtout votre prise de position républicaine par rapport à des questions politiques, parce que c'est ça aussi qu'il faut, comme disait Alpha Omar Konaré, à un problème politique, il faut une solution politique sans faux fuyant. Donner la parole à que les gens puissent s'exprimer, que la lumière puisse être notre voix. Ouais. Je pense que c'est là, vous avez ce mérite à travers ce grand, en tout cas, espace, RDI, qui est devenu vraiment le baromètre des infos et des explications avec vos invités de qualité de marque. Vraiment, je me joue à tout le monde pour saluer ce travail remarquable. Maintenant, coup de gueule, si, j'en ai.
Okay.
Coup de gueule, c'est par rapport aux faux panafricains. À leur tête, vraiment, qui va déguster la gastronomie française et qui trouve des prétextes pour revenir à Paris. Et féliciter à travers cela, vraiment, que la France est un pays de droits et de libertés. Et même ceux qui ne sont pas d'accord avec la France assure leur liberté. C'est de cela qu'il s'agit, que les panafricains, au lieu de s'acharner sur la grande France, ils feront mieux de venir en Afrique pour faire avancer, aider l'Afrique à se développer. Et si je crois à des panafricains, en tout cas pour moi, c'est ceux qui apportent ou en tout cas qui contribuent à des solutions. Et je profite pour saluer un artiste, Tikendia Fakoli, qui dénonce les abus, mais qui apporte des solutions. Il fait des écoles. Et on ne peut pas se développer sans l'éducation et sans la culture et la formation. Je pense que si on aime l'Afrique, c'est ces milliers de paysans, c'est des milliers de des personnes qui travaillent nuit et jour pour que l'Afrique marche, l'Afrique bouge. Et vraiment, c'est de cette Afrique qu'il faut et vraiment des personnes, des ressources humaines pour créer de la valeur ajoutée. Je pense que ce travail-là doit être mon coup de gueule parce que pour moi, être panafricain, pour crier sur la France, pour moi, vraiment, c'est pour moi l'expression. Bon, le média est trop sérieux, mais merci quand même.
Merci,
à Djiliba TV, à travers votre leadership.
Merci, mais j'espère que demain, si on fait les élections, c'est sûr que vous pouvez peut-être partir en France pour vous reposer un peu.
Mais là, vous faites de la digression. Là.
Oui, j'espère. Hein.
Non, moi, en fait, je n'ai pas de problème avec mes amis du CNSP.
Ouais.
Mais seulement, vous savez, moi, l'État, il est ce qu'il est.
Okay.
Alors, il faut pas. L'État ne donne jamais raison à un individu. Okay. Mais je pense qu'il y a de très bonnes raisons.
Est-ce que ça évolue les relations aujourd'hui?
Moi, je n'ai jamais nié que je suis en contact avec eux. C'est des personnes que je parle avec eux. Ça, tout à temps. Maintenant, mes choix, mes prises de position politique ne sont pas forcément de tout temps appréciées ou acceptées. Donc, pour moi, c'est cette liberté.
On dit de vous que vous êtes incontrôlable. On est à la fin de mission. Hein. On dit de vous que vous êtes incontrôlable. Est-ce que le CNSP ne se dit pas incontrôlable?
Non, le mot est trop fort.
Hein?
je préfère peut-être être contributeur de solutions.
Ok, d'accord. Non, j'ai dit, voilà. Ok, bon, on va éviter tout ça. Merci, Issa Kaudi.
Merci à vous.
Et voilà, merci à Dr Aminatou Traoré. Merci à Soumedala qui revient. Hein. C'est la grande forme, apparemment, le retour. Merci, docteur, analyste, écrivain. Hein, voilà. Merci d'être là, docteur Amadou Atouré. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours. Renouvelez le programme de Djiliba TV News. Vous pouvez retrouver cette émission demain à 22h et le mardi à 10h. Cette émission est sur l'ensemble de nos plateformes digitales, YouTube, Facebook, Twitter. Au revoir et à dimanche prochain à 19h, toujours avec le même plaisir.